Bonsoir. T3B vous souhaite la bienvenue à son quatrième téléphone sonne iconé, entièrement fait main, bio et local. N'ayant peur de rien, nous enregistrerons la conférence pour une rediffusion ultérieure. Nous vous rappelons notre adresse courriel c3vdebat@yonlautre.fr, c3vdebat@yonlautre.fr. Vous pouvez faire vos commentaires, poser vos questions et innovations. Ce soir, nous allons essayer de vous donner la possibilité de réagir en direct de la manière suivante. Sur notre adresse mail, rédigez votre question ou le sens de votre intervention et laissez votre numéro de téléphone ou du moins les quatre derniers chiffres afin que nous libérions votre ligne pour que vous puissiez poser vos questions à Nicolas en direct. Donc, sur notre adresse courriel c3vdebat@yonlautre.fr, n'hésitez pas à poser vos questions, faire vos commentaires ou laissez-nous votre numéro de téléphone si vous préférez le faire de vive voix. Mesdames et messieurs, accrochez-vous à votre verre, installez-vous confortablement. Attention à la fermeture des portes, votre conférence va débuter. Bonne soirée.
Bonsoir tout le monde. Ce soir, on va parler de l'annonce de M. Macron disant qu'il allait annuler massivement les dettes de l'Afrique. Pourquoi annuler les dettes de l'Afrique? Parce qu'il y a des gros problèmes aujourd'hui dans la mesure où les pays africains, particulièrement les pays francophones, sont dans des grandes difficultés du fait qu'ils exportent essentiellement des matières premières et que le prix de ces matières premières s'est écroulé. Ces dettes des pays africains ont des origines lointaines. Donc on va essayer de voir très rapidement quelles sont ces origines. En fait, elles remontent à 5 siècles. Ces origines, c'est le commerce triangulaire. Les bateaux partaient chargés de fusils, d'acier, de verroterie, etc., partaient sur les côtes africaines et échangeaient tout ça contre des jeunes hommes et de jeunes femmes qui étaient réduits en esclavage, transportés jusque dans les Antilles et l'Amérique du Sud. Et là, on les faisait, ils travaillaient, on fait en travail forcé pour produire des biens que nous n'avions pas, comme du sucre, des épices, etc., et travailler dans les mines, chercher de l'or, de l'argent. Les bateaux revenaient chargés de toutes ces richesses. Ce commerce triangulaire a duré 3 siècles et demi, depuis grosso modo l'arrivée de Christophe Colomb en 1492 jusqu'au 1850 grosso modo. Et il a enrichi énormément l'Europe, le Portugal, l'Espagne, la France, l'Angleterre, etc. En 1850 grosso modo, ce commerce a en partie cessé parce que l'esclavage s'est arrêté à cause du travail de tous ceux qui ont résisté à cette forme de travail terrible. Mais à ce moment-là, ça a été l'époque où les pays européens ont colonisé avec leurs armées la majorité des pays africains. Pour la France, c'est l'Ouest, hein, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, que sais-je, et puis l'Algérie, etc. etc. Et cette colonisation avec les armées a fait perdre totalement l'indépendance à ces pays. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce sont devenus des pays, pour la France, des pays français. Donc, on a pu voler carrément leurs ressources naturelles. Cette fois, il n'y avait pas d'esclaves, c'était du travail un petit peu forcé, même carrément. Mais ces ressources sont arrivées en France, en Angleterre, enfin dans tous les pays européens, sans être payées. Cet enrichissement a continué de plus belle pendant cette période coloniale qui a duré qui a duré environ un siècle, grosso modo jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France a réellement décolonisé ses pays en 1960, autour des années 1960. Mais les années 1960, c'est une période très particulière parce que c'est la période où la société de consommation explose parce que les Américains qui ont gagné la guerre de 40 nous ont exporté leur système de l'American Way of Life, la société de consommation. Et qui dit société de consommation dit société de gaspillage. Et qui dit société de gaspillage dit société qui a besoin, énormément, encore plus besoin, de ressources naturelles, qu'elles soient agricoles, minières, fossiles, comme le pétrole, etc. Et donc, comment faire pour que cette période où les armées coloniales quittent ces territoires, comment faire pour continuer ce pillage, ce vol des ressources, alors qu'il n'y a plus ce système colonial? Eh bien, c'est là que la dette vient se substituer aux armées d'occupation. Comment ça se produit? Une des premières choses qui se produit, c'est la Banque mondiale qui réclame à ces pays tout l'argent qui avait été emprunté, par exemple par la France, pour construire ports en eau profonde, chemin de fer, routes, etc., et dans le but de pouvoir mieux piller les ressources dont elle avait besoin, l'uranium au Gabon, au Niger, etc., etc. Et donc, la Banque mondiale réclame à ces pays de rembourser cette dette. C'est une dette odieuse, c'est une dette qui n'a pas été remboursée par le régime suivant, elle n'a pas été faite avec l'accord des populations, et le régime qui a endetté, qui a endetté le pays, était un régime dictatorial. Une colonisation, c'est le moins qu'on puisse dire, un régime dictatorial. Cette dette n'avait pas été remboursée. Eh bien, la Banque mondiale a imposé ce remboursement, et ça a été le début de ce système dette qui est toujours là aujourd'hui. Et comment ce système s'est installé? Eh bien, il s'est installé de façon assez classique, c'est-à-dire que tous ces pays avaient absolument besoin d'investir pour refaire des structures d'autonomie, c'est-à-dire des universités, les routes qu'il fallait, les écoles qu'il fallait, les hôpitaux qu'il fallait, etc. Refaire vraiment un système de santé qui n'existait pas. Pendant la période coloniale, les colonisateurs se foutaient pas mal de savoir comment allaient les Africains, etc. Et donc, cette période, mettons 60-80, a duré une vingtaine d'années, jusqu'à un moment où ces pays se sont donc endettés pour faire tout ça, jusqu'à un moment donné où on est rentré dans une crise de la dette pour des raisons d'impossibilité de rembourser, parce que justement, ce qu'ils vendaient, qui étaient les ressources naturelles, comme dans la continuité de la période coloniale, leur prix n'était plus ce qu'ils étaient, et donc ces pays sont tombés grosso modo en faillite, pour simplifier les choses. Il y a d'autres explications à ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Toujours est-il que ces pays ne pouvaient plus rembourser et que le FMI est intervenu avec des prêts de secours. Des prêts de secours, bien sûr, c'est formidable, les prêts de secours, sauf qu'en réalité, c'était très favorable aux prêteurs, c'est-à-dire aux banques, par exemple, qui n'auraient pas été remboursées sans ces prêts de secours. Et surtout, la chose terrible, c'est qu'avec ces prêts de secours, il y avait des conditionnalités qu'on a appelées plans d'ajustement structurel et qui étaient un véritable chantage. Je te prête, moi, le FMI, de l'argent si tu fais ce que je te demande. Et qu'est-ce que je te demande? Eh bien, je te demande d'ouvrir tes frontières, d'accepter que les pays industrialisés investissent librement et puissent rapatrier leurs capitaux. Je te demande de diminuer tes dépenses pour pouvoir rembourser cette dette irremboursable. Donc, fini la santé, les écoles gratuites, tout ça, terminé. L'entretien des routes, c'est fini. On passe à l'austérité. Au nom du remboursement de la dette, on crée l'austérité. Et ainsi de suite. Et donc, on a obligé ces pays à entrer dans le système capitaliste. Obligé, voilà. C'est-à-dire que, par exemple, si on parle des frontières, de l'ouverture des frontières, on a mis en concurrence l'agriculture vivrière et familiale de ces pays-là, avec l'agriculture des pays industrialisés comme la nôtre, qui est subventionnée. Donc on a pu exporter du blé, et à Dakar vous allez manger de la baguette blanche avec du blé français ou européen, que sais-je, qui vaut rien du tout, qui est une nourriture, des baguettes qui sèchent en un quart d'heure, qui est une très mauvaise nourriture par rapport à ce qu'eux savaient produire, comme le mil et la bouillie de mil. Et ainsi de suite. Et donc, on a créé une concurrence complètement déloyale. Et en plus, dans ces plans d'ajustement structurel, il y avait effectivement la privatisation. Il fallait privatiser les grandes entreprises. Il fallait accepter que les banques, tout ça, toutes les grandes entreprises minières, etc., soient achetées par la finance internationale. Voilà. Donc, ce système d'aide est absolument dramatique. Et c'est ce qui explique aujourd'hui qu'on en soit toujours au même point. C'est-à-dire que il y a 60 ans, hein, il y a 60 ans les déconisations, il y a 40 ans la grande crise de la dette des années 80. Eh bien, est-ce que ces pays ont réussi à offrir une vie digne à leurs habitants? Non, absolument pas. Aujourd'hui, la Chine dont les salaires ont énormément monté, elle regarde l'Afrique comme un pays où elle va pouvoir faire fabriquer ce qu'elle ne peut plus faire fabriquer à des prix défiant toute concurrence, parce que le salaire en Chine, il est, mettons, de 300, 500 euros par mois, et ben en Afrique, c'est plutôt 20 euros par mois. Et puis, autre chose qui a empêché ces pays de se développer, c'est ce qu'on appelle la détérioration des termes de l'échange. C'est-à-dire que les matières premières qu'ils vendent ont des prix fixés dans les bourses du Nord. Et par contre, les biens manufacturés qu'ils achètent, eh bien, sont aussi fixés par les pays industriels qui leur vendent. C'est ce qu'on appelle la détérioration des termes de l'échange. Et ces pays, pour rembourser leurs dettes, doivent exporter pour acquérir ce qu'on appelle les monnaies étrangères ou les devises. Il n'y a pas d'autre solution pour eux que d'exporter. Donc, ils ont été poussés à exporter de plus en plus de ressources naturelles, de plus en plus transformer leur agriculture vivrière en agriculture d'exportation. Et le tour était joué. C'est-à-dire qu'en fait, c'était exactement le but recherché par les pays industrialisés. Parce que les pays industrialisés ne peuvent absolument pas se passer des ressources de l'Afrique. C'est impossible. Bien sûr, il y a des ressources ailleurs, il y en a en Asie, il y en a en Amérique du Sud. Mais si on enlevait les ressources de l'Afrique, mais ça serait la catastrophe pour les pays riches et industrialisés. À telle enseigne, par exemple, que le coltan et le cobalt qui vont dans nos super smartphones, dans les voitures, etc., dans tout un tas de choses, dans tout le système high-tech, eh bien, 50% de ces minéraux très recherchés viennent du Kivu en RDC, en République démocratique du Congo, où on sait que ce sont souvent des enfants qui descendent dans des trous avec des risques terribles de mourir étouffés, etc. Donc, il est inimaginable aujourd'hui pour les pays industrialisés, eh bien, de se passer de toutes ces ressources. Donc, que faire? Que faire si on décide d'annuler la dette? Si on décide d'annuler la dette, eh bien, on offre à ces pays la possibilité de recréer une autonomie, de refermer en partie leurs frontières pour ne pas accepter justement ce dont j'ai parlé, cette concurrence totalement déloyale, par exemple, au niveau de l'agriculture, de pouvoir décider de créer une industrie à l'abri de production à très très bas coût fait par l'Asie, la Chine, etc., de refuser l'accaparement des terres. Aujourd'hui, il y a un accaparement des terres terrible, c'est-à-dire que c'est surtout les fonds de pension américains, mais pas que les pays d'Arabie Saoudite, etc. Beaucoup de pays ou d'entreprises privées de ces pays achètent des terres en Afrique. Bien sûr, comme les gens sont très pauvres, les terres coûtent pas cher, et quand on achète des terres, on vole l'eau. Si on exporte par exemple des agrocarburants qui viennent d'Afrique, eh bien c'est de l'exportation virtuelle de l'eau. Et cette eau, elle est prise à des paysans qui ne peuvent plus utiliser ni leurs terres, ni avoir accès à l'eau. Donc, On voit bien que tout ce système de dette a permis une mise en un asservissement, quoi. On ne va pas dire mise en esclavage, mais un asservissement. D'autant plus que dans ce système de dette, de prêts, etc., il y a une corruption des décideurs là-bas. Donc en fait, on se retrouve avec des décideurs, des bourgeoisies au pouvoir, qui au lieu de travailler pour le bien-être de leur population, eh bien vont travailler pour le bien-avoir des multinationales qui se sont implantés dans leur pays. Et pourquoi? Bah parce que eux, dans ce système de corruption, sont devenus en partie propriétaires de ces multinationales. Pas propriétaires, mais ils ont des parts dans ces multinationales. Donc leur intérêt, eh bien, c'est de participer à ce système de pillage. Donc, ce qui est vraiment intéressant de comprendre, c'est que dans ce système-là, annuler les dettes, c'est décider qu'on n'aura plus accès à des coûts très bas à toutes ces ressources. Ce qui veut dire que c'est notre vie qui doit changer, notre quotidien. Est-ce qu'on pourra continuer à rouler dans des voitures qui pèsent une tonne, voire deux tonnes maintenant avec les SUV, pour promener 70 kilos de chair humaine? Est-ce qu'on pourra continuer à avoir des maisons non isolées qui chauffent les petits oiseaux, etc.? Est-ce qu'on pourra continuer à prendre l'avion à tour de bras, à réchauffer la planète? Sachant qu'aujourd'hui, avec le pétrole du Gabon, du Nigeria, de l'Angola, d'Algérie, qu'est-ce qu'on fait? On importe ce pétrole, on n'importe pas que de là, mais on importe déjà celui-là. On le brûle pour nous chauffer, pour nous refroidir, pour faire tourner des voitures, des camions, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on exporte? Eh bien, on exporte les gaz à effet de serre. Oui, oui. Nous, les Européens, les pays industrialisés, on exporte nos gaz à effet de serre dans l'Afrique, vers l'Afrique, par exemple. On l'exporte partout, mais vers l'Afrique. Et l'Afrique produit 3 à 4% des, ou 5%, je ne sais pas exactement, des gaz à effet de serre, mais sa population représente près de 20%. Donc, c'est absolument dramatique. Oui.
Voilà. Écoute, Nicolas, on va faire une petite pause. Là. Il y a quelqu'un qui souhaite te poser une question en direct. Oui. Je te donne la parole. Vas-y, Kamel. Allô?
Allô?
Oui. Kamel, si tu peux poser ta question.
Oui, je voulais poser une question. Merci là, pour la qualité. Tu vas en parler peut-être en deuxième partie. J'ai vu l'année dernière le film de Costa Gavras, Adult in the Room, sur la dette, notamment en Grèce. Et je voulais savoir, est-ce que c'est réel ce qu'il a filmé? Est-ce que c'est complètement ce qui s'est vraiment passé? Est-ce que l'Allemagne, c'est elle qui dirige un peu toutes les dettes européennes, entre autres?
Bon, la question est un petit peu compliquée. Parce que, est-ce que l'Allemagne dirige les dettes européennes? L'Allemagne est un pays dominant en Europe. C'est très clair. L'Allemagne est un pays dominant. L'euro a été construit sur la valeur du mark, donc il est beaucoup trop élevé pour les pays du sud de l'Europe. Ils ne peuvent plus faire de la déflation compétitive, c'est-à-dire de la dévaluation compétitive, c'est-à-dire baisser le niveau de leur monnaie, alors qu'ils ont des structures économiques et industrielles qui ne sont pas au niveau de ceux des pays du Nord, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. Donc, dire que c'est l'Allemagne qui dirige les dettes européennes, c'est un peu exagéré, mais dire que l'Allemagne est aux manettes, oui, c'est ce qu'on appelle l'ordolibéralisme. Donc, l'ordolibéralisme, c'est 3% de déficit, 60% de dette par rapport au PIB, etc. Et c'est vrai que on voit bien dans le film que c'est l'Allemagne qui est un petit peu dirigée à travers son ministre de l'économie la négociation. Mais ce qu'il faut, c'est revenir un petit peu avant. C'est-à-dire, bon, Tsipras a été élu, il a été élu avec un programme qui était de changer les statuts de l'Europe ou de résister à toutes les ordonnances, en quelque sorte, proposé pour rembourser la dette par la Commission européenne, par ce qu'on appelle la Troïka, dans lequel il y a le FMI, etc. Donc, ce qu'on voit dans ce film, c'est une toute petite partie des choses. On ne voit pas ce qui s'est passé avant et on ne voit pas ce qui s'est passé après. C'est-à-dire que c'est une petite partie où Varoufakis se donne le beau rôle du mec qui se bat, mais en réalité, Tsipras et Varoufakis n'ont pas fait le vrai boulot qui était, dès le départ, d'imaginer qu'ils devaient rompre avec l'Europe. Rompre dans le sens où ils devaient fermer les frontières pour ce qui est de la finance, ils devaient boucler les frontières, et puis recréer une monnaie parallèle, peut-être une monnaie électronique, et se mettre vraiment en position de force par rapport à l'Europe. Pas que l'Allemagne, par rapport à l'Europe, parce qu'on voit bien que la France était tout à fait partie dans ce système. Parce que, en réalité, la dette grecque, c'est une dette dont l'origine est assez particulière. C'est que quand elle est rentrée dans l'Europe, et puis surtout dans l'euro, en 2001, je crois, elle est rentrée dans l'euro, eh bien, elle n'avait pas les structures, et comme je l'ai dit tout à l'heure, économiques, industrielles, pour rentrer dans l'euro, en fait. C'est une combine qui a été organisée par Goldman Sachs, la banque américaine, pour maquiller les comptes. Et donc, une fois qu'elle est rentrée dans l'euro, eh bien, elle a eu accès à la possibilité d'emprunter à des taux très bas. Et donc, les banques françaises et allemandes en particulier se sont précipitées pour prêter beaucoup d'argent à la Grèce et lui vendre par la même occasion, parce que je te prête de l'argent, mais tu m'achètes, pour ce qui est de l'Allemagne, mes sous-marins, ou etc., pour ce qui est de la France, pareil, tout un tas de choses, parce que la Grèce est un gros acheteur d'armes, parce qu'elle est toujours plus ou moins en guerre avec la Turquie. Et donc, en fait, on a endetté la Grèce à fond, donc ce sont les Grecs, hein, bien sûr, les gouvernements grecs, mais il y a eu une participation très très importante de la France, de l'Allemagne et de tous les pays industrialisés pour endetter ces pays-là. Et quand la crise de 2009 est arrivée, on s'est aperçu que, eh bien, la Grèce était très endettée, pas tant que ça, hein, elle était endettée à hauteur de 110 ou 120% de son PIB. Nous, c'est ce qui va nous arriver, on va monter à 120%, donc c'était quand même pas si dramatique que ça. Mais on a crié au secours, ah non, la Grèce ne peut pas rembourser, la Grèce ne pourra pas rembourser, donc qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que la Troïka s'est mise en place avec le FMI en disant, on va prêter de l'argent à la Grèce, mais en réalité, on n'a rien prêté du tout. Parce que l'argent qui a été prêté à la Grèce, il a servi à rembourser les banques. Les banques françaises et allemandes avaient chacune pour environ 50 milliards de prêts. Et donc, les prêts en question, ils ont été directement aux banques françaises et allemandes. Et donc, à la fin de la partie, eh bien aujourd'hui, la Grèce est endettée à hauteur de 180%. On l'a obligé, comme je l'ai dit, c'est pareil pour les pays africains, on lui a fait des plans d'ajustement structurel. On l'a obligé à privatiser ses plages, ses entreprises, ses ports, etc. Bientôt ses mines, etc. Et aujourd'hui, la Grèce est très mal en point. Sa santé, c'est la catastrophe. Toute la santé est catastrophique. Et les gens ont perdu quasiment la moitié de leur salaire, la moitié de leur retraite. Et les temps sont très difficiles. D'autant plus difficiles que ce qui restait à la Grèce pour gagner un peu d'argent, c'était le tourisme. Et avec le Covid, alors là, c'est vraiment la plus grande catastrophe qui puisse se passer. Donc, bon, je simplifie. C'était pas très, tout à fait le sujet. Mais voilà, si c'est à peu près clair. C'est des plans d'ajustement structurel classiques et c'était pour sauver les banques occidentales qui avaient trop prêté pour vendre des marchandises. Voilà.
Merci. Alors, merci. Nicolas, alors on peut essayer peut-être de voir aussi dans le sens de la proposition de Macron de réduire ses dettes africaines. Donc c'est un mensonge pur et simple. Qu'est-ce qu'il en est justement
de cette... Alors, si on parle de réduire les dettes africaines, si on rentre un petit peu dans les détails techniques, les dettes africaines sont composées de trois différentes dettes. Ce qu'on appelle la dette bilatérale, c'est la dette d'un État à un État. Alors, par exemple, la France a prêté Aujourd'hui, la France a une créance d'environ 14 milliards sur un certain nombre de pays africains, en général les pays francophones, 14 milliards. Mais l'Afrique est endettée à hauteur, grosso modo, de 500 milliards. Donc, il y a la dette bilatérale, il y a la dette multilatérale, celle qui concerne le FMI, la Banque mondiale, et puis quelques banques qui sont dépendantes du FMI et de la Banque mondiale, des banques, ce qu'on appelle les institutions financières internationales. Et puis, il y a la dette privée. Donc, la dette privée, c'est quoi? Eh bien, c'est les banques. C'est les banques qui prêtent de l'argent, grosso modo. Eh bien, l'ensemble de ces dettes, c'est 500 milliards. Donc, faire une annulation massive des dettes africaines, ça voudrait dire qu'il faudrait annuler 500 milliards. Donc, il n'en est pas question. Jamais les banques vont abandonner leur créance. Et en plus, il faut savoir qu'aujourd'hui, 40% de la dette privée et publique, et c'est la Chine. C'est normal, puisque la Chine, et ça c'est vraiment intéressant, la Chine c'est aussi une forme de commerce triangulaire avec l'Afrique. C'est-à-dire que les Chinois, qui sont devenus la TV du monde, ont absolument besoin des ressources de l'Afrique. Que ce soit le bois, les mines, je vous ai dit, le coltan, le cobalt, tout, le poisson, tout. Donc, la Chine a prêté énormément d'argent, elle a investi dans des structures, c'est des échanges, des espèces de troc. En fait, je te prête pas de l'argent, je construis un train entre Mombasa et Nairobi, mais tu vas devoir me le payer au fil des années. Donc c'est comme ça que s'est créé beaucoup de dettes. La Chine a fait la même chose en RDC, où elle a fait un deal énorme pour avoir une mine de cuivre pendant 30 ans, etc., en échange de quoi elle a fabriqué des routes. Donc en fait, la Chine qui détient donc environ 20% dettes privées, 20% dettes publiques, donc dette bilatérale, c'est 40% de la dette africaine. Donc, je ne vois pas comment Macron va supprimer massivement les dettes africaines, alors que la dette bilatérale, c'est-à-dire la créance sur l'Afrique, sur les pays africains en général francophones, est de 14 milliards. Je redis, la dette globale des pays africains actuellement est de 500 milliards. Et donc, évidemment, en ce moment, les pétroles est tombé à 20 dollars, l'ensemble des ressources naturelles, le prix des ressources naturelles s'est effondré. Or, comme ces pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne vivent essentiellement qu'en exportant des ressources naturelles à l'état brut, eh bien, ces prix se sont totalement effondrés. Et donc, pour les pays africains, c'est la catastrophe. Impossible de rembourser. Donc, qu'est-ce qu'a proposé le G20? Parce que c'est un autre organisme. Le G20, c'est les 20 pays les plus riches. Ils ont proposé, un petit moratoire pendant 8 ou 12 mois. Là, on va vous faire un petit moratoire. Donc, vous ne rembourserez pas vos dettes. Mais bon, vous les rembourserez avec intérêt supplémentaire pendant les 3 ans qui viennent après 2020. C'est de la rigolade. C'est se foutre de la gueule du monde. Mais pourquoi? Parce que le G20, les pays riches, ont absolument besoin des ressources africaines, ont absolument besoin de maintenir cet asservissement et ce pillage. Et, enfin, c'est notre niveau de vie. Je veux dire, Bush a dit, le niveau de vie des citoyens états-uniens n'est pas négociable. Mais est-ce que notre niveau de vie à nous est négociable? Mais pas plus. Qui veut rentrer en décroissance? Là, on vient de faire 2 mois de décroissance subie. Mais qui veut continuer à ne pas se promener en voiture, en avion, etc.? Personne. Donc, c'est seulement si nous, tous, les grands consommateurs, les 10-20% d'habitants de la planète qui consommons 80% de ces ressources, c'est seulement si nous, on décide d'entrer réellement en décroissance, de revenir dans une forme d'autonomie, etc., de ne plus asservir l'Afrique, que quelque chose changera. Mais la Chine, et donc ça veut dire qu'à la limite, il faut arrêter d'acheter des produits chinois. Non seulement il faut arrêter d'importer des ressources naturelles, de les piller, mais il faut arrêter d'importer des produits chinois qui sont pleins de ressources naturelles africaines.
Par rapport à ce que tu disais là sur nos pratiques et notre manière, ça renvoie aussi à une question sur le revenu minimum, le salaire universel, etc. Souvent, tu dis oui, mais si, comment on va financer ça parce que ça pose la question de aussi comment.
Pour moi, le salaire universel, c'est très joli tant qu'on pille les ressources naturelles. Mais sinon, si on veut faire un salaire universel, réellement universel, où les Africains, tout le monde est compris dans ce salaire, j'ai peur qu'entre 20 euros par mois et puis nous, mettons qu'on soit à 1500 euros par mois, j'ai peur qu'ils descendent fortement, hein, parce que les Africains, ils sont nombreux. Les gens qui vivent avec 2 dollars par jour ou 1 dollar par jour, ils sont plutôt 2 milliards. Donc, là, le salaire universel, il risque d'être plutôt autour de 300 euros par mois que de 1000 euros ou 200 euros par mois. Ah, ça serait formidable. Moi, si les Africains, s'ils avaient 200 euros par mois, je vais vous dire, ils feraient la fête. Hein. Ça, franchement, ça serait absolument extraordinaire. Donc, le salaire universel, oui, ça part d'un bon sentiment, mais est-ce que ça permet de ne pas réchauffer la planète, de ne pas piller les ressources, d'en laisser pour nos enfants et nos petits-enfants? Parce que là, on vide les puits de pétrole, on vide tout, mais qu'est-ce qui reste? C'est pas la corne d'abondance, hein, les ressources naturelles, pas du tout. Non, non. Et plus on pille et plus on réchauffe, plus on fait de la croissance et plus on réchauffe. Donc, on est en face de problèmes assez structurels, assez monstrueux. Et oui, moi, d'accord pour le salaire universel, mais c'est plutôt autour de 100 ou 200 euros par mois. D'accord. Et encore, je ne sais pas si c'est possible.
Oui, c'est ça. Et pour en revenir à la dette, excuse-moi, parce que là, on a un peu digressé, même si ça pose la question quand même globalement, mais pour en revenir à la dette, il y a quand même tout un tas de choses qui se mettent en place là sur est-ce qu'on va pouvoir rembourser ou pas un jour toujours ces dettes-là? Est-ce qu'il va y avoir un phénomène d'inflation qui va un jour annuler la dette de fait, ou comment on voit ça?
Mais ça, tout le monde est en train de se poser la question. Donc effectivement, il y a plusieurs solutions qui sont en débat actuellement. Mais je ne sais pas si elles sont en débat parce qu'elles s'imposeront d'une façon ou d'une autre. Moi, je ne sais pas du tout ce qui va se faire. On voit que l'Allemagne résiste, c'est-à-dire elle résiste absolument à ce qu'on fasse des corona bonds, c'est-à-dire que toutes les dettes soient plus ou moins mélangées et que soit la BCE qui prenne en charge les dettes. Alors donc effectivement, la BCE prend en charge les dettes, c'est-à-dire que dans le système des dettes, il y a le marché primaire et le marché secondaire. Le marché primaire, c'est je suis l'État français et j'émets une demande de prêt. Et donc, des gens vont me prêter de l'argent, en général des banques, des assurances, des fonds de pension, des fonds d'investissement. Je cherche un milliard, on me prête un milliard. Okay ? Donc, en échange de ce milliard, je fais une reconnaissance de dette. On appelle ça un titre de la dette. Donc, j'ai emprunté un milliard sur 10 ans au taux de 1%, admettons. Très bien. Donc, cette dette, actuellement, je peux la faire acheter par la BCE, la Banque Centrale Européenne. Elle m'achète ma dette de 1 milliard à 1% sur 10 ans. Et donc, moi, je paye les intérêts à la BCE, mais je ne suis plus endetté puisque c'est la BCE qui l'a. Donc, ça, c'est une solution. C'est ce qu'on fait actuellement, puisque la BCE fait du quantitative easing, donc elle rachète les obligations, donc les emprunts faits par aussi bien des entreprises que des États. Donc c'est ce qui se passe, ça fait un moment que ça dure, le quantitative easing, et là, elle va redoubler d'efforts. Sauf que la cour de Karlsruhe en Allemagne dit que c'est pas constitutionnel, ça rentre pas dans la constitution européenne. Donc il y a du bisbille là-dessus. Ça, c'est une solution. Et puis, c'est de faire que donc toutes ces dettes qui sont rachetées par la BCE, eh bien, ne soient jamais remises sur le marché. Donc, ça veut dire qu'on supprime les dettes petit à petit, les dettes des États. Donc, elles disparaissent. C'est des dettes éternelles. On paye juste les intérêts. L'autre solution, effectivement, ça s'appelle, je crois que ça s'appelle monétiser la dette. L'autre solution, c'est faire de l'inflation. C'est ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. La France ou l'Angleterre, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avait des dettes d'environ 200%. 200%. Donc, évidemment, impayables. Et il y a eu de l'inflation, c'est-à-dire que les salaires montaient, le prix des biens montait, et donc la valeur du franc, de la livre et tout baissait. Et donc les créanciers, les détenteurs de ces dettes, eh bien, ils voyaient petit à petit la valeur de leurs créances baisser de 2-3% par an. Donc ça, c'est la dissolution de la dette par inflation. Mmh. Évidemment, aujourd'hui, la finance a beaucoup plus de pouvoir qu'elle n'en avait après la Seconde Guerre mondiale, puisque on sait que la finance et les grandes entreprises ont été nationalisées parce qu'elles avaient frayé avec le nazisme, etc. Aujourd'hui, la finance est au pouvoir et je ne crois pas que l'inflation soit bien supportée par la finance. Peut-être c'est possible. Donc il y a des discussions, il n'y a pas de solution aujourd'hui très clair qui se détache, mais c'est ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui le capital n'est pas remboursé. Donc la dette de la France a atteint 100%, elle va atteindre 120%, mais le capital n'est jamais remboursé. On dit qu'on fait rouler la dette, c'est-à-dire que on paye les intérêts. Actuellement, la France paye environ 40 milliards d'intérêts par an, ce qui est un budget vraiment important sur un budget de 360. 40 milliards, c'est voilà, c'est quand même vraiment important.
Et l'éducation nationale, c'est...
L'éducation nationale, c'est 75 milliards, donc c'est beaucoup plus quand même. Mais c'est quand même colossal, parce que où va cet argent? Il va entre les mains de riches détenteurs de capitaux, que ce soit les fonds de pension, une fois de plus, les fonds d'investissement, les banques, et c'est les actionnaires des banques, les banques et les actionnaires. Les fonds d'investissement, ce sont des actionnaires, ce sont des détenteurs de capitaux. Donc en fait, on enrichit des gens très riches en payant les intérêts de la dette. Mais on ne rembourse pas le capital. On n'est pas capable de rembourser le capital, puisque chaque année, on a 3% de déficit, et 3% du PIB qui est à 2400, ça fait 3 fois 24, hein, ça fait 75 ou 80 milliards. Donc on rajoute 80 milliards de dettes chaque année en ce moment. Donc on n'est pas en train de rembourser le capital. Mais voilà, quand une obligation qui est, j'ai emprunté 1 milliard sur 10 ans, donc au bout de 10 ans, je dois rembourser mon milliard. Ok, je rembourse mon milliard si je ne l'ai pas mis à la BCE, je le rembourse et je réemprunte aussitôt. Donc, ce qu'on appelle faire rouler la dette. Mmh. Donc, pour le moment, c'est cool, on fait rouler la dette. Mais comme le dit Lordon, si demain, il y a un gouvernement de gauche qui s'installe pour remplacer Macron, parce que toutes les partis de gauche, les écologistes, tous les gens un petit peu sensés décident de se réunir pour élire un autre que Macron, très bien, ils décident de faire des chemins de fer, etc., de remonter les salaires, etc., etc. Et puis ils disent non, la dette quand même, franchement, non, la dette, c'est trop. Donc ils luttent contre les paradis fiscaux, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, sur le marché secondaire de la dette, là où on s'échange ces titres de la dette, eh bien, ils vont vendre les dettes françaises. Ils vont les vendre. Et ils vont les vendre moins cher que ce qu'elles valent. Mais du coup, s'ils vendent les titres de la dette moins cher, eh bien, on ne pourra plus faire rouler la dette comme avant sans payer des intérêts très élevés. Puisque plus personne ne voudra de la dette française, puisqu'ils ils vendront massivement. Et donc, le taux d'intérêt va monter énormément. Et là, ça va être très difficile pour ce gouvernement. Donc, en fait, on est dans un système totalement dominé par la finance, et pour sortir de ça, eh ben c'est très compliqué. Aujourd'hui, les paradis fiscaux, s'ils existent, c'est parce que c'est la finance qui est au pouvoir, ce sont les grandes entreprises qui sont au pouvoir, on le voit bien avec Big Pharma, ici, avec le Covid, mais pour tout, aujourd'hui, on a donné petit à petit un espace énorme aux grandes entreprises et aux détenteurs de capitaux, et donc ce sont eux qui sont au pouvoir. Et donc, comment on fait pour sortir cette espèce de noblesse de la finance, noblesse pas au sens noble du terme, au sens prédation du terme, comment on fait pour sortir de ces structures de domination dans lesquelles on vit, dans lesquelles vit l'Afrique, mais dans lesquelles nous aussi on vit, parce que la dette française est majoritairement illégitime, c'est-à-dire qu'elle ne profite pas à ceux qui la remboursent. Ceux qui la remboursent, c'est nous. Hein. 50% du remboursement de la dette se fait à travers la TVA qui est beaucoup plus dure pour les plus pauvres que pour les plus riches. Donc, comment on fait pour sortir de ces structures de domination dans laquelle la dette est vraiment un levier d'une puissance incroyable? Pour le moment, on n'en parle pas trop, on va augmenter la dette, on va payer un petit peu les gens pour qu'ils ne soient pas trop dans la merde, on va donner de l'argent à Air France, etc., à toutes les grosses entreprises pour qu'elles redémarrent, mais on se met encore plus dans la gueule du loup.
D'accord. Voilà. Oui, ce que tu as décrit tout à l'heure, là, c'était un peu ce qu'a vécu l'Équateur. C'est-à-dire l'Équateur qui avait dénoncé sa dette, et en fait, il y a eu l'effet boomerang que tu as décrit tout à l'heure, là.
Absolument pas.
Non.
L'Équateur a fait un audit de la dette, c'est dont Eric Toussaint y a participé, un audit international et citoyen de la dette. Et après cet audit qui a duré 6 mois ou 1 an, je ne sais plus, il a été dit que une grande partie de la dette de l'Équateur était soit odieuse, soit illégitime en général, et qu'elle n'avait pas à être remboursée, parce qu'elle avait été faite par des dictateurs, etc. Et donc, quand Correa a annoncé ça, quand il a dit je rembourserai que 40% de la dette, je ne sais plus les chiffres exactement, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les détenteurs, tous les prêteurs, donc détenteurs de titres de prêts qu'ils avaient fait à l'État équatorien, ont vu la valeur de leurs titres baisser complètement. Alors, je reprends mon exemple. Admettons que la National City Bank ait prêté 1 milliard au gouvernement équatorien. 1 milliard sur 10 ans. Admettons. Donc, ça fait 3 ans qu'il a prêté 1 milliard à l'État équatorien. Correa intervient, je crois que c'est en 2008, et dit non, je rembourserai pas une grande partie de la dette parce qu'elle est odieuse, illégitime, etc. Eh bien, la valeur de son titre s'écroule. C'est-à-dire qu'il y a toujours marqué 1 milliard à, mettons, 5% pendant 10 ans, mais elle ne vaut plus ça. Et donc, la National City Bank va vendre son milliard. Il va le vendre pour 20 ou 30% de sa valeur à des gens qui se disent, j'ai 1 milliard, j'achète 300 millions, 1 milliard, c'est à 5% sur 10 ans, bon, je pense que ça les vaut, je vais me faire rembourser quand même. Donc, et ce qu'il a fait, Correa, parce que c'était un économiste formé en France et aux États-Unis, il a demandé à une banque de racheter sur le marché secondaire l'ensemble des titres des prêts qui étaient en vente sur le marché secondaire. Et donc, il a racheté à 30% de leur valeur tous les prêts qui avaient été faits au gouvernement équatorien, au précédent gouvernement équatorien. Et donc, ce qui lui a permis d'économiser des sommes absolument considérables pour un petit pays comme ça, de l'ordre de 7 milliards, je crois, et qui n'a pas été tricard sur le marché des capitaux. Il n'a pas été tricard, non, parce que voilà, ça s'est fait comme ça, ça s'est passé comme ça, et aujourd'hui, si l'Équateur est dans la merde, c'est pour d'autres raisons, mais c'est pas pour ça.
D'accord, voilà. C'est important parce que
c'est ce qu'on aurait voulu que fasse la Grèce et que Tsipras et Varoufakis n'ont pas fait. Bon, mais ils étaient à l'intérieur de l'Europe, c'était peut-être plus compliqué, mais je veux dire, il y avait l'exemple de l'Équateur, il y a eu d'autres exemples de dettes qui n'ont pas été remboursées, et non, ils appartenaient à l'establishment, ils ne voulaient pas rentrer dans une épreuve de force où, certes, la Grèce, ça aurait été très dur pour le peuple grec, mais certainement moins dur que ce qu'ils vivent aujourd'hui et qui n'ont pas fini de vivre, parce qu'il faudra encore 20 ans ou 30 ans pour que la Grèce retrouve vraiment un équilibre économique alors que tout a été privatisé. C'est un pays qui n'appartient plus, la Grèce n'appartient plus aux Grecs.
Alors, dis-moi, il y a François qui pose une question là, mais qui revient sur la dette africaine, sur les 14 milliards, et qui dit qu'effectivement, les pays, on peut annuler ces 14 milliards, mais tu l'avais bien situé, toi, sur les 500 milliards globalement. Et donc, François, alors peut-être qu'on va faire l'essai de lui donner la parole. hein, parce qu'il parle de, effectivement du problème chinois, un peu comme tu le disais tout à l'heure, quoi. Mais qu'il n'y a pas de position ferme. Alors, est-ce qu'on essaie ça, Kamel, que tu as vu sur le pad, voilà. Donc, enfin, ce que dit François, hein, c'est le problème est d'abord chinois. Je ne vois guère de position ferme pour condamner véritablement ce pays et son régime, sauf Trump, qui défend avant tout ses intérêts, ceux des États-Unis et sa réélection. J'aurais envie d'ajouter. Voilà. Donc, soit on arrive à mettre François en ligne, soit qu'est-ce que ça te fait réagir comment ça?
Moi, je ne parle pas de condamner les Chinois. Je ne dis pas ça. Je dis la société technologique, industrielle, est une société qui est basée sur le pillage et le réchauffement de la planète. Voilà, c'est ça que je dis. Et que nous, on y participe lourdement. Parce que souvent, on dit, oui, la France a un peu baissé ses gaz à effet de serre. Oui, mais on ne comprend jamais les gaz à effet de serre émis par la Chine, par exemple, pour nous vendre des ordinateurs, des téléphones et tout un tas de trucs. Donc, le problème n'est pas d'accuser. Les vrais responsables de l'état de fait, de l'état d'endettement de l'Afrique, de pauvreté des Africains, etc., ce sont les consommateurs de la planète. Ce sont les États-Unis, la classe moyenne chinoise, une grande partie des Européens, etc. C'est nous qui sommes responsables de ça. Nous, si on n'achète pas de produits chinois, il n'y aura pas de problème avec la Chine. Je veux dire, il n'y aura pas de problème de pillage par la Chine. C'est pas, je condamne pas la Chine. La Chine ne fait rien d'autre que ce qu'on a fait pendant des siècles. Alors, on va pas dire, ne faites pas ce qu'on a fait, puisqu'on l'a fait. Elle fait exactement la même chose que nous. Elle nous a remplacés comme pilleurs, c'est tout. Nous, on a été pires, on a fait de l'esclavage, on a fait de la colonisation armée. Là, la Chine, elle fait que des prêts. Et puis voilà, elle fait même pas le chantage du type FMI pour l'ouverture des frontières. Elle fait du commerce, elle prête de l'argent et elle demande qu'on la rembourse. C'est tout. Donc, n'est pas le sujet d'accuser la Chine. Sûrement pas. Le sujet est de se dire, est-ce qu'on veut vivre dans un pays qui arrête de se réchauffer et qui arrête de dominer l'Afrique en particulier? Est-ce qu'on veut ça? Et si on veut ça, est-ce qu'on est capable de rentrer en réelle décroissance matérielle? On décroît, parce que la décroissance, ça commence par la décroissance des inégalités. Est-ce qu'on veut vraiment la décroissance des inégalités? Et résorber et annuler les dettes de l'Afrique, c'est vraiment créer de l'égalité entre les peuples et à l'intérieur des pays. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est l'égalité. Si on crée de l'égalité, pour créer de l'égalité, eh bien, il faut que nous, on réduise nos consommations, nos gaspillages, qu'ils soient de biens de consommation, de nourriture, de chauffage, de refroidissement, de transport, d'avion, de tourisme et tout ça. Est-ce qu'on veut changer de société? Est-ce qu'on veut faire une planète vivable pour nos enfants ou pas? C'est ça la vraie question.
Alors, je sais pas, il y avait une erreur sur le numéro. J'ai d'autres questions qui sont arrivées. Alors, je te les lis. C'est une personne qui souhaite pas forcément prendre la parole, donc je les donne. S'agit-il, comme anciennement les banques centrales, de capitaux privés gérés par des personnes nommées par l'Union économique, par l'UE?
J'ai pas très bien compris.
Alors, une question sur la BCE. Oui. S'agit-il, comme anciennement les banques centrales, de capitaux privés gérés par des personnes nommées par l'Union européenne? Voilà, ça c'est...
La BCE, c'est une banque centrale. Donc, en tant que banque centrale, elle a la capacité de créer de la monnaie autant qu'elle veut.
Donc, les banques centrales nationales.
Comme faisaient les banques centrales nationales. Sauf que là, on est dans la zone euro, je crois que ça représente 350 millions de personnes, ou peut-être plus, je ne sais pas exactement. Et que donc, et ça représente quand même une puissance qui est quasiment égale aux États-Unis et plus importante que la Chine, puissance économique, en PIB, s'entend. Donc, il est évident, et on le sait très bien, que quand on crée de la monnaie, qu'on fait marcher la planche à billets, c'est le quantitative easing, c'est de la planche à billets, c'est-à-dire on produit de la monnaie. Eh bien, ça crée de l'inflation, c'est-à-dire que ça aurait tendance à faire perdre de la valeur à la monnaie. ce que évidemment les Allemands, au secours, surtout pas faire des choses comme ça. Bon, pour le moment, ils ont accepté quelques trucs, mais ils sont en train de faire marche arrière. Bon, voilà, la BCE, elle a un rôle, on lui a donné un rôle unique, c'est de maintenir le taux d'inflation à 2%. C'est le seul rôle qu'elle a. Alors que la Fed, la Banque Centrale Américaine, a un double rôle, maintenir l'inflation à 2%, mais maintenir les emplois, ce que n'a même pas la Banque Centrale Européenne. Donc c'est une banque centrale, elle a la possibilité de créer de la monnaie, mais elle est gérée par l'ensemble des Européens. C'est pas parce que Christine Lagarde, qui n'y connaît rien en économie, qui est juste une avocate, ex-patronne de Baker et McKenzie à Chicago, et ex-directrice du FMI, ex-ministre de l'économie, elle n'est pas du tout économiste. Elle est là parce qu'elle sait bien parler, elle sait arrondir les angles et tout, mais c'est pas du tout ça. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire ce que les plus puissants vont lui dire de faire, ce que les Allemands, qui sont les plus puissants, mais les Français aussi, les Hollandais, etc. Voilà.
D'accord. Alors, j'ai une autre question sur le Club de Paris. Le Club de Paris, qu'est-ce que c'est?
Donc, j'avais dit, il y a trois dettes. Il y a la dette bilatérale, multilatérale et privée. Donc, les dettes bilatérales, c'est environ pour l'Afrique 20 pays prêteurs. Donc, ces 20 pays prêteurs se réunissent au sein du Club de Paris. Voilà, le Club de Paris, c'est un club informel qui n'a pas de statut juridique, c'est même pas une association, c'est rien du tout, mais il s'appelle le Club de Paris. Et quand un pays a des problèmes pour rembourser sa dette, il vient plaider sa cause devant le Club de Paris. Le Club de Paris n'annule jamais les dettes. Tout ce qu'il fait, c'est proroger un petit peu le temps, etc., du bricolage, il n'annule jamais les dettes. Mmh. Les dettes multilatérales ne sont jamais annulées ni par le FMI ni par la Banque mondiale. Donc n'en parlons pas. Et quant aux dettes privées, eh bien, il y a le Club de Londres, qui est un peu l'équivalent du Club de Paris pour les questions de dettes privées. Donc c'est aussi un club informel, etc., etc. Voilà. Donc le Club de Paris, il se réunit au ministère des Finances à Paris, mais c'est quelque chose de tout à fait informel dans lequel la France n'a pas un rôle plus important que les autres. Enfin bon, sauf qu'il y a le franc CFA qui est un truc un peu particulier, mais je ne vais pas aborder le franc CFA.
D'accord.
Il va sans doute disparaître pour le meilleur, mais je c'est pas sûr, mais j'espère qu'il va disparaître.
Voilà. Une autre question qui est-ce que c'est la dette qui a mis à bas les régimes socialistes?
C'est une vaste... Alors, on parle par exemple de Thomas Sankara au Burkina Faso.
Peut-être, oui.
Les régimes socialistes de l'Est de l'Europe ou d'Afrique?
La question ne le précise pas.
Puisqu'on est sur l'Afrique, on va parler des pays socialistes. Donc, il y avait un pays socialiste qui était dirigé par un type formidable, c'était le Burkina Faso, qui s'appelait Thomas Sankara. Et Thomas Sankara, qui avait été formé à Saint-Cyr en France, c'était un mec d'une intelligence hors du commun, et il avait vraiment très bien compris l'esclavage par la dette. Et donc, il avait prononcé en 87 devant l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, un discours qui est célèbre, qu'on peut encore trouver, qui est absolument extraordinaire, où il a dit beaucoup de choses, mais en particulier, avant d'en arriver là, disons que Thomas Sankara avait développé l'autonomie de son pays. C'est-à-dire, mes vêtements, c'est du coton burkinabé, filé au Burkina, tissé au Burkina, coupé et confectionné au Burkina, mes vêtements sont burkinabés en entier. Donc, il était dans un système d'autonomie et il disait, la dette, si nous la payons, ils ne mourront pas. Non, si nous la payons, nous mourrons. Et si nous ne la payons pas, ils ne mourront pas. Et 3 mois après, il était assassiné.
Oui.
Parce que, effectivement, la dette, c'est vraiment la base de l'asservissement, la base du pillage. C'est essentiel. Donc, pour ce qui est des pays de l'Est, des pays européens de l'Est, la Russie, Bah, je ne suis pas sûr que ce soit la dette qui ait plongé la Russie, qui ait fait tomber l'Union soviétique. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Mais je ne crois pas que ce soit un sujet qu'on puisse aborder parce que c'est un grand sujet et je vais être tellement succinct que ça va être. Bon, disons que c'est la course aux armements, la course aux étoiles qui a plongé la Russie dans la merde parce qu'elle n'a pas pu suivre économiquement. Et qu'elle s'est retrouvée, bon, enfin bon, bref, passons.
Enfin, voilà, mais ça serait. Bon, mais alors, en fait, et alors c'est encore une question qui est arrivée, mais qui va dans le fil de ce que tu dis, parce que Sankara n'a pas pu réussir. Donc, il n'y a pas d'évolution possible, il y aurait qu'une révolution, et encore?
Aujourd'hui, la plupart des régimes africains sont pro-capitalistes, sont ultra-libéraux, faut le dire. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Ils ont été corrompus et de la même façon qu'on voit nos énarques sont totalement corrompus puisque ils ont été formés dans l'école de la République et très rapidement ils quittent la fonction publique pour diriger les entreprises privées. Donc il y a une corruption, un conflit d'intérêts, tout ce qu'on veut, qui est absolument colossal. Donc on voit très bien que la majorité ou tous, parce que je ne vois pas de grande différence, il y a des pays qui sont plus ou moins autonomes. OK, plus ou moins autonomes. Mais la majorité des pays africains sont très, très corrompus. Mais nous aussi. Je veux dire, pour moi, les gouvernements, l'un après les autres en France, sont totalement corrompus. Je veux dire, ils se font élire par le peuple. Et Hollande avait dit, mon ennemi est la finance. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a servi la soupe à la finance. Est-ce qu'il pouvait faire autrement? Ça, c'est une question, une vraie question. Mais la réalité est là, c'est que un peuple élit un gouvernement pour faire que tout aille bien, pour que le peuple on privilégie le bien-être du peuple sur le bien-avoir des multinationales, et c'est l'inverse qui se produit. Macron n'est en ça pas différent des Sarkozy, Chirac, Hollande et tout ça. Bon, sauf que lui, il veut aller plus vite, il n'a pas d'enfant, c'est un jeuneau, il croit qu'il va casser la baraque. Bon, oui, il a cassé la baraque, oui, ça c'est sûr, mais c'est juste l'horreur. Donc, je ne sais pas, voilà. Je ne sais pas
D'accord.
quoi.
Bon, bah écoute, on a fait le tour, on n'a pas réussi à se joindre. Alors, si j'ai encore une question qui arrive, c'est BlackRock et les retraites. Est-ce que ça aussi c'est un pillage? Alors.
Alors, voilà, ça, il faut revenir sur la question de la privatisation. C'est fondamental. Là, je l'ai dit pour l'Afrique, les plans d'ajustement structurel contenaient un truc énorme, c'était la privatisation. Mais nous, on est dans un système de privatisation et d'austérité. De la même façon, pour payer la dette, il faut réduire les hôpitaux à rien du tout, il faut réduire les profs, il faut réduire ci, il faut réduire la sécurité sociale, etc. On endette, on endette, c'est quelque chose d'absolument incroyable. La privatisation, c'est la base de tout, quoi. Je veux dire, je ne sais pas comment dire. Aujourd'hui, le principe pour créer de la dette, en France par exemple, mais dans la plupart des pays, c'est de sous-budgétiser. Voilà. On sous-budgétise, mais on sous-budgétise tout. On sous-budgétise le budget de la France, on sous-budgétise le budget de la SNCF, on sous-budgétise le budget des hôpitaux. Et qu'est-ce qui se passe quand on sous-budgétise? Eh bien, ces entreprises ou l'État s'endettent. OK? Ils s'endettent. Donc, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il est endetté, qu'il est sous-budgétisé? Eh bien, il détruit des emplois parce qu'il est obligé, il peut pas tourner. Il faut qu'il paye les intérêts. Il reçoit plus assez de budget. Par exemple, la SNCF, on lui a fait construire des TGV, etc. Et d'un seul coup, elle a une dette. Enfin, pas d'un seul coup. Elle se retrouve avec une dette de 50 milliards d'euros. Mais évidemment, mais c'est de l'infrastructure, cette construction. C'est l'État qui devait faire ces infrastructures. C'était pas à la SNCF de faire ça. Donc, on lui dit, ah ben maintenant, tu as une dette, il faut que tu payes. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, la SNCF? Ben, elle réduit les salaires, elle réduit tout ce qu'elle peut pour essayer de payer une dette qui est impayable. Parce qu'on se retrouve avec faire des parcours en avion qui sont moins chers qu'en train, ce qui est une aberration écologique, une aberration dans tous les sens. Donc, le principe de base, c'est la privatisation dans ce système ultralibéral. Et on sous-budgétise, je donne l'exemple, par exemple, des mutuelles. Les mutuelles d'assurance complémentaire, c'est 20 à 25% de frais de gestion. Mais un EHPAD privé, c'est aussi 20 à 25% de frais de gestion. Sauf que la sécurité sociale, qui fait le même travail, eh bien, c'est 5% de frais de gestion. Et pour l'eau, c'est pareil pour tout ça. Donc, la privatisation, c'est un système qui permet aux détenteurs de capitaux de gagner de l'argent sur la consommation, sur les ménages. Donc, non seulement on rembourse la dette, on paye des intérêts, mais en plus, on se retrouve au nom d'une dette qui est irremboursable de l'État français, on se retrouve dans l'obligation de privatiser. Mais c'est banco pour les détenteurs de capitaux. Non seulement ils reçoivent les intérêts de la dette publique, mais en plus, ils se retrouvent à pouvoir développer des cliniques privées, des EHPAD privés, etc. Maintenant, bientôt des trains privés, des autoroutes privées, etc. Donc, on paye, on tond le contribuable, on tond le consommateur, à tel point que le pouvoir d'achat, il baisse. Et on assiste à ce qu'on appelle une démoyennisation. C'est-à-dire, la classe moyenne, elle a été créée après la Seconde Guerre mondiale grâce au programme, au CNR, au programme de la résistance qui s'appelle les Jours Heureux. Eh bien, à cette époque-là, on avait nationalisé les banques, nationalisé Renault, etc., etc. Et on a créé une classe moyenne avec la sécurité sociale, les congés payés, la retraite, etc., etc. Et aujourd'hui, eh bien, ces pouvoirs ultralibéraux ne font qu'une chose, c'est reprendre tout ce qu'ils ont perdu au moment de la fin de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en France. Donc, le budget, pourquoi le budget est sous-budgétisé? Eh bien, parce qu'on diminue les impôts des plus riches, parce qu'on diminue les impôts des entreprises et parce qu'on laisse exister les paradis fiscaux. Et c'est jusqu'à 100 milliards d'euros par an qui ne sont pas versés au budget de l'État. Hein, l'optimisation fiscale, etc., 100 milliards, c'est plus que le déficit. Donc, on fait exprès, c'est volontaire. Le déficit budgétaire, c'est volontaire. C'est la porte ouverte à la privatisation. C'est exactement la même chose qu'en Afrique.
Ok, Nicolas. Alors, il y a des interventions qui te remercient, qui disent bravo, etc. Il y en a qui me disent, bon, mais peut-être qu'on arrive au bout. Alors, de toute façon, ça s'est enregistré. Normalement, vous retrouverez cette conférence sur le site de C3V, hein, si on se plante pas dans les manips. Normalement, ça devrait le faire. J'ai une question là de quelqu'un qui te dit, c'est Pascal, quelqu'un qui s'appelle Pascal, qui dit, Nicolas, que penses-tu de cette notion de dette écologique? C'est-à-dire que face à la proposition de Macron de l'annulation de la dette africaine, ne pourrions-nous pas revendiquer de cesser notre dette écologique vis-à-vis de l'Afrique? Qu'est-ce que tu penses de cette notion de dette écologique?
La dette écologique, c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose que le pouvoir ne veut absolument pas reconnaître. La dette écologique, c'est en fait l'accumulation de ce qu'on appelle les externalités négatives. Qu'est-ce que c'est que les externalités négatives? Eh bien, quand une entreprise extrait, mettons, de l'or ou que sais-je, du cuivre et tout, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle détruit un territoire, elle fait des piscines de décantation pour laver ses minerais, qui en général, au bout de 10 ou 20 ans, se cassent et polluent tout, etc. Où on a l'exemple en Équateur de Chevron qui a pollué une partie de la forêt amazonienne de l'Équateur et qui a été condamné à verser 9 milliards d'euros à l'Équateur et qui a réussi à pas les verser, etc. Donc ça s'appelle les externalités négatives. Donc ces externalités négatives, ce sont les pollutions, les pertes de territoire, etc. Et le réchauffement climatique, c'est une externalité négative énorme. Donc L'ensemble de ces externalités négatives, qu'elles soient historiques, l'esclavage, c'est une dette écologique parce que, en fait, on a commencé à tout détruire. Je veux dire, il y a 6 millions qui sont morts dans les mines de Potosi, 6 millions de personnes qui sont mortes dans les mines de Potosi. C'est une externalité négative. L'esclavage, c'est une externalité négative. Hein. Donc, ces externalités négatives, elles sont absolument colossales. Et c'est là-dessus que les entreprises pilleuses font leurs bénéfices. Si une entreprise faisait une mine propre, si elle réparait, mais elle ne ferait aucun bénéfice, elle s'en irait tout de suite. Comment faire un barrage en Amazonie pour faire fonctionner des usines sans inonder une surface énorme de forêts, etc. Comment produire du soja qui va nourrir les cochons, les poules françaises, etc. ou chinoises sans détruire la forêt? Eh bien oui, ça, ce sont des externalités négatives qui sont énormes. Et ces externalités négatives en Afrique, si on ne sait pas dire le prix, mais elles sont 100 fois, 1000 fois plus importantes que la dette financière. Simplement, elle n'est pas financière. Elle demanderait des réparations. Elle demanderait de cesser de dominer ces pays. Voilà. Les réparations, ça serait de partager tout, de faire effectivement un revenu universel qui soit le même pour les Africains que pour les Européens, les Français, etc. Donc, la dette écologique, c'est un concept essentiel si on veut essayer de comprendre quelque chose. Il n'y a pas de mine propre. Voilà, la mine propre, ça n'existe pas. Donc, effectivement, si on doit chercher, creuser des mines, eh bien, il faut le faire au minimum et le plus proprement possible, mais sachant que ça sera quand même dégueulasse. Donc, quand ce sont des intérêts publics et que ça profite à l'ensemble, bah, peut-être, oui, mais quand ce sont des intérêts privés, je veux dire, Total ne pourrait pas gagner d'argent et distribuer plein de fric à ses actionnaires s'il payait pour le coût du réchauffement, le coût du CO2 émis par tout le pétrole qui est brûlé, par le pétrole qui vend, qu'il extrait et qui vend et qui est brûlé. Donc, on est dans quelque chose d'impossible. C'est pour ça que je parle de décroissance. Il n'y a que la décroissance qui permettrait de limiter la dette écologique et de la rendre acceptable par tous. Mais de la limiter. Là, pour moi, on est dans un délire absolu et c'est pour ça que les gouvernements et toutes les entités importantes, les institutions refusent d'admettre qu'il existe une dette écologique. Mais en fait, c'est un concept formidable pour comprendre ce qui se passe. Voilà, je veux dire, par exemple, une dette écologique est énorme, dont on parle peu, c'est la destruction des sols par l'agriculture productiviste. En France comme ailleurs. C'est-à-dire, mais les sols, qu'est-ce qu'on va livrer à nos enfants comme terre? Des terres mortes? Des terres où on a bousillé la fertilité? C'est une dette écologique. L'agriculture productiviste, elle extrait de la potasse, du phosphate, du pétrole, et elle bouffe la fertilité. Et quand on détruit la fertilité, on émet du CO2. Donc, il y a l'azote qui est émis, qui se transforme en un gaz encore 300 fois plus réchauffant que le CO2. Et on détruit la fertilité, on détruit l'avenir. Donc, voilà, c'est ça la dette écologique, détruire les forêts pour faire du soja, pour faire de l'EVA, pour faire du palmier à huile. Mais c'est des dettes écologiques, c'est colossal. Voilà.
Voilà, bah écoute, c'était Pascal Paquin qui demandait éventuellement à qui on pourrait donner la parole. Je ne sais pas si Kamel a repéré le numéro, je l'ai mis sur le pad. Voilà, mais sachant que donc, on a une heure et quart de conférence, là, ça fait déjà beaucoup. J'en profite là pour dire que la semaine prochaine, jeudi prochain, ça sera sur la santé, ça sera êtes-vous immunisé contre le coronavirus, un médecin d'Auxerre, Jean-Pierre Richard, qui interviendra sur ce sujet-là, et que la semaine d'après, le 21, ça sera sur la piscine nucléaire de Belleville, enfin, et toute la problématique de l'énergie nucléaire et des déchets nucléaires.
Je vois pas le numéro de Pascal sur le pad.
Tu le vois ?
Non, je ne le vois pas sur le pad. Tu ne me l'as pas marqué.
Ah bon ? En bas, je l'ai écrit tout en bas.
En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, bonne soirée à tout le monde.
Eh ben, merci à toi. Merci beaucoup. Hein. Il y a eu plusieurs interventions qui allaient dans ce sens. Bon, ben, je ne sais pas. On va s'en tenir là pour ce soir. Donc, Et puis, ben voilà, encore un bravo à Nicolas et à C3V et à Yon l'autre. Pour,
Merci, merci.
Bon, eh bien, à la prochaine, à la semaine prochaine. Donc, le